Léa Salamé, votre invitée ce matin est grand reporter au Monde.
Bonjour à vous Florence Obna.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous avez passé une semaine sur les ronds-points de Marmande dans le Lot-et-Garonne pour essayer de raconter au plus juste, au plus près, la révolte des Gilets jaunes. Ça donne un journal de bord paru ce week-end dans Le Monde, accompagné de photos magnifiques en noir et blanc d'Edouard Elias. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, le plus étonné à l'issue de cette semaine sur les ronds-points ?
C'était la réflexion que se faisaient beaucoup de maires, par exemple, de professeurs, de gens qui sont un petit peu, notables. C'est qu'ils ont vu sur ces ronds-points des gens qu'ils ne voyaient jamais. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui avaient l'habitude de prendre la parole, c'est pas la grande gueule locale, j'ai rien contre les grandes gueules, au contraire. Mais enfin, en tout cas, c'était pas eux, ce n'était pas des acteurs, ça n'était pas des personnes actives. Alors, pourquoi ces gens-là ne sortaient pas et sortent aujourd'hui? Et c'est ça qui est d'une certaine façon, serre le cœur. C'est qu'ils ne sortaient plus de chez eux. C'est-à-dire que les gens se retrouvent... Vous voyez ces maisons des bords de route qui sont à la fois très près de tout et très loin de tout. Il faut prendre la bagnole pour acheter la baguette. Donc ces gens, beaucoup d'entre eux en tout cas, habitent dans ce type de logement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher. Donc c'est très simple. Et ça part d'une idée aussi que certaines villes se sont dites, on va pas faire des ghettos, donc on va mettre des gens dans des bourgades ou un peu éclatés. Et on se retrouve avec l'hôpital à 15 bornes, l'école pareil, le travail aussi.
Le centre
aussi.
Leclerc à 10 kilomètres.
Voilà.
Et ce que vous racontez là. Ce qui est surtout saisissant dans votre récit, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire la fraternité des ronds-points. On l'a beaucoup dit, la chaleur humaine, mais vous le dites avec votre regard particulier, singulier. Ce mouvement a permis à un certain nombre de gens de sortir de leur solitude, de se faire des amis. Vous citez une infirmière, ça fait 10 ans que je vivais sans sortir, à ne parler qu'à ma chienne. Et là, elle socialise, les gilets jaunes, ça lui a changé la vie.
Oui, et certaines personnes avaient des sages, tu te rends compte, ça fait au moins 15 jours que j'ai pas fait des mots croisés. Ça donne l'idée de la soirée, et ça c'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi j'avais vu un peu la même chose. Alors évidemment ça n'a rien à voir, mais au moment où le RMI, donc dans les années 80, avait été installé, on avait dit aux gens allez vous inscrire, et on avait vu sortir des gens qui se retrouvaient sans aucun revenu et qu'on ne connaissait pas. Et là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'était ces citoyens invisibles restés chez eux qui finalement ne s'intéressaient plus à rien. Et à l'occasion des jeunes, tout à coup, ils se disent, moi aussi je parle. Alors, la première phase de ces rencontres, c'est parler de soi.
Alors, la première phase, c'est ne pas parler du tout. Vous racontez bien qu'il y a la fraternité, il y a aussi l'orgueil retrouvé de ces gens-là. Vous dites au début, ils restaient sans rien dire, le dos courbé dans un coin. On les a vus peu à peu se redresser.
Oui, et certaines personnes ne parlaient même pas, ne se présentaient pas. Et donc, ils étaient tellement parfois mal à l'aise qu'ils écrivaient leur prénom sur le gilet pour ne pas avoir dire je m'appelle un tel ou voilà. Donc tout le monde était remuait son café dans son coin sans dire un mot, et petit à petit, alors la chose commune est parler d'argent, ce qu'on ne fait rarement en France, en tout cas combien tu gagnes, comment tu y arrives, etc., qui est un peu un discours tabou. Et là tout le monde y va, et donc et moi je fais ci, et moi il m'arrive ça, etc. Et là tout à coup naît l'incohérence des politiques publiques aujourd'hui, qui chacune prise de son côté a l'air tout à fait logique. Bien sûr, on va regrouper l'hôpital et la maternité à tel endroit parce que, bien sûr, on va faire des économies. On va mettre des gens, les installer ailleurs parce que ça va être moins cher pour eux. Donc tout ça a l'air très logique. Et ben après, quand il faut aller travailler, prendre la voiture, etc., ça devient cette espèce de monstre ingérable qu'on voit aujourd'hui dès qu'on augmente le prix de l'essence.
Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce sont les paroles de femmes. Les femmes qui semblent trouver dans cette lutte un sens à leur vie et même une place dans l'existence. Vous dites Adélie, par exemple. Vous la citez, maman au chômage. Mais écrivez-vous, à cet instant précis, elle s'en fout d'être chômeuse. Depuis quand sa vie ne lui avait pas semblé si excitante? Adélie, qui ne regarde plus les dessins animés avec sa fille, mais les infos le soir et ça change sa vie. Ou Coralie, qui répond à un homme en berline qui lui dit « Rentrez chez vous, vous n'obtiendrez rien ». Elle lui dit « Mais j'ai déjà gagné ».
Oui, et quand on leur demande alors comment ça se passe, etc., qu'est-ce que vous comptez faire? Et la première réponse est « On a déjà fait les ronds-points ». Et donc, ils ont déjà l'impression d'avoir retrouvé, en tout cas sur les ronds-points, alors ça peut paraître très paradoxal, une place qu'ils n'avaient plus dans la vie. Et donc, cette place-là, qui leur semblait-il voilà, nier, c'est-à-dire je vais plus voter parce que plus personne ne me représente, je ne vais plus à l'école des enfants, j'ose plus y aller, puis c'est loin, puis je vais pas aller aux parents d'élèves, etc. Et donc tout à coup, cette place, elle est là, il se retrouve là, on se dit bonjour, on s'embrasse, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe là, et qui soude, j'entendais Thomas Legrand parler, ce qui soude aussi, et c'est cette espèce de rage contre la classe politique. Alors longtemps, ça s'est cantonné au président, ensuite c'est descendu au gouvernement, maintenant on en est aux députés. Donc il y a une espèce de cascade de rage et de haine
que vous dites très bien, le ressentiment, vous le racontez.
C'est terrible.
J'ai une haine, ça me bouffe, ça me réveille la nuit, je me retiens depuis si longtemps. Vous l'avez ressenti, cette haine, ce ressentiment.
C'est terrible, parce que la haine, c'est un sentiment qui est effrayant, et quand il commence à structurer la pensée, c'est terrible, parce qu'il faut en sortir. Et donc là, c'est vraiment la classe visée, et
c'est la classe politique, c'est pas les élites en général, les députés. Et est-ce que vous, comme journaliste, puisqu'on sait qu'ils ont aussi une haine des journalistes, on l'a vu notamment, comment vous avez été reçu, comment ils vous ont accueilli en tant que journaliste du Monde, donc l'élite de l'élite
vous êtes bien modeste. Eh bien, en fait, c'est très différent, je pense, d'une part suivant les endroits. Donc à Paris, dans les grandes villes, c'est très différent. Sur une manifestation où tout le monde a une charge d'adrénaline qui est très différente. Je pense que dans les villes intermédiaires ou dans les en France, c'est plus facile. Hein. Donc, et moi, mon but était de rester longtemps. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils sont bien obligés de vous subir. Donc, on reste planté là. Et donc, au début, il y a cette chose, vous savez, qui se fait beaucoup maintenant, qui est de vous filmer. Donc, vous arrivez, donc tout le monde vous filme. Vous avez une question, vous êtes filmé, parce que vous avez déformé les propos. Et je l'accepte. Je comprends très bien qu'il y ait une défiance par rapport aux journalistes. Et la France n'a pas toujours la presse qu'elle mérite. Donc, moi, ça ne me gêne pas.
Vous mentionnez le flot de nouvelles qui circulent sur les ronds-points, les vrais comme les fausses. Des fake news, vous en avez beaucoup entendu?
Énormément. Donc, il y a des fake news et il y a surtout une espèce de... on se lâche sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que c'est quand même aussi une question difficile à aborder. Et alors, à plus forte raison, entre amis ou en famille. Et donc, souvent, on ne l'aborde qu'avec des gens dont vous êtes absolument sûr qu'ils pensent tout à fait comme vous au millimètre près. Parce que sinon, c'est... Voilà. Donc, en France, où on a tellement aimé parler politique, on a appris à se taire maintenant là-dessus. Et bien là, on se lâche. Alors, il y a une grosse envie, en tout cas sur ceux qui prennent la parole, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais de ceux qui parlent, c'est le coup d'État militaire arrive certainement en bonne place, ce qui est quand même très paradoxal en France.
Et donc, est-ce que vous avez entendu aussi du racisme, de l'antisémitisme? Christiane Taubira dit dans le JDD hier, il y a dans ce mouvement du sublime et des traces de choses abjectes. Il y a, dit-elle, incontestablement des personnes sexistes, racistes, homophobes et antisémites. Vous les avez vus, ceux-là?
C'est la société. Donc elle est, comme tout pan de la société, vous savez, moi je les rencontre aussi dans le milieu des journalistes.
Donc pas plus, pas moins, ça vous a pas choqué?
C'est-à-dire que ça se dit ouvertement, alors que dans d'autres milieux, ça se dit moins. Mais ça se dit, et je trouve que c'est déjà pas mal qu'on le dise, et qu'en face, quelqu'un réponde, je suis pas d'accord.
D'accord.
Et ça, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que là, tout le monde donne son avis, personne ne rigole, alors ce qu'il y a, et la plupart disent, moi, avec mes amis, avec ma famille, je n'oserais pas parler de ce dont je parle ici. C'est déjà pas si mal.
Et ceux qui disent que c'est un mouvement très politisé, qui est manipulé par des militants d'extrême droite, d'ultra droite ou d'extrême gauche, vous avez vu, senti ça?
Non. Moi, je n'ai pas vu ça, mais je vous dis, je suis restée à un rond-point, à Marmande, donc c'est peut-être vrai ailleurs. Là, je ne l'ai pas vu.
Est-ce que le risque, quand on fait un reportage comme le vôtre, quand on reste une semaine sur les ronds-points, est-ce que le risque, ce n'est pas l'esthétisation ou l'idéalisation des Gilets jaunes?
Si, bien sûr que c'est un risque, comme la diabolisation, hein, c'est vraiment les deux pendants des choses. Bien sûr que c'est un risque, et surtout quand on y reste, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux syndrome du journaliste qui est vous restez avec les Kurdes, vous partez pro-Kurde ou anti-Kurde. Enfin bon, il y a
et
toujours...
Et vous êtes parti pro-Gilets jaunes?
Non, parce que je ne pense pas que ça se pose dans ces termes-là. Je pense que les Gilets jaunes sont réellement une grande chance pour notre pays et une grande chance pour la France, et un défi à relever. Et je pense pas que ce soit c'est quelque chose, j'entendais Thomas Legrand parler, je ne leur souhaite pas de devenir un parti, mais de devenir au contraire, vous savez, un contre-pouvoir, je ne sais pas comment le dire.
Et vous sentez que ça va continuer, qu'après les fêtes, ça va, parce qu'il y a eu un reflux ce week-end, que ça va se politiser, vous voyez quoi, vous?
Pas de vin, bien sûr, mais je pense qu'une partie va rentrer dans la classe politique parce que ça va leur plaire, et tant mieux, mais une très faible minorité. liberté. Et je pense qu'il va en rester bien sûr quelque chose, et quelque chose de fort et de profond. Et ça ne sera pas forcément sur tous les ronds-points, mais j'en suis sûre, bien sûr.
Merci Florence Obna, votre reportage, votre journal de bord est à lire dans Le Monde, et c'est formidable. Et merci, et belle journée à vous.